les jardinières.
Vous voulez faire de votre jardin un Éden, c'est possible. L'heure du grand ménage a sonné dans les jardinières. Bonjour Éline, bonjour Mylène.
Bonjour.
La météo annoncée va faire tomber les quelques feuilles bien crochées aux arbres de votre jardin. Et plutôt que de pester car elles vont envahir votre pelouse, réjouissez-vous car c'est un cadeau du ciel.
Ce matin, pour parler des feuilles mortes et de leurs bienfaits, nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et paysagiste à Port-en-Truy. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Olivier, vous allez nous aider avec vous. On va voir comment et pourquoi les ramasser. Tout d'abord, nous verrons l'importance de le faire. Dès 7h35, nous apprendrons comment et pourquoi les recycler. Surtout pendant toute l'émission, nous répondrons à toutes vos questions concernant les feuilles mortes. Et enfin, aux alentours de 7h45, dans Pas de salade entre nous ce matin, Mylène nous parlera de châtaigne et de marron. Et pour rectifier le tir, eh bien, Olivier est là ce matin, mais il est basé à Queuve et non pas à Port-en-Truy. Bienvenue dans les jardinières.
Mylène, Sandra, Aileen, les jardinières.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des questions tout au long de la semaine grâce à notre formulaire qui se trouve tout en haut de notre page d'accueil. Et parmi les questions que l'on reçoit, on ne reçoit pas seulement des questions sur les feuilles qui tombent. Vous pouvez nous poser n'importe quelle question concernant votre jardin. Et parmi ces questions, on en a deux qui parlent d'orchidées, notamment une d'Aurore qui nous demande « J'ai une quinzaine d'orchidées qui font chaque année beaucoup de fleurs. La seule qui n'en fait plus depuis 3 ou 4 ans que j'ai, c'est le Sibindium. Quel conseil pouvez-vous me donner ? Merci et bonne journée. » Olivier, vous avez une idée sur ce que Aurore pourrait faire ?
Oui, alors bien sûr, le Sibindium est une orchidée qui est un peu plus difficile à faire fleurir. Il faudrait qu'elle lui fasse une période de repos pendant la fin de l'automne, début de l'hiver, pour qu'elle ait une période où c'est que la température soit un peu plus basse. Parce que si elle la laisse dans son appartement à 20, 22, 24 degrés, l'orchidée, elle va faire que des feuilles, elle ne fleurira pas. Donc il faut qu'elle la mette dans un endroit, une pièce, une chambre très fraîche, qui est même 10, 15 degrés, pour qu'après, quand elle la ramènera au chaud, au mois de février, mars, eh bien qu'elle ait une période de chaleur et puis un choc végétatif, puis c'est ça qui fera ressortir les boutons pour qu'elle ait une nouvelle fleur après sa période de repos.
Donc voilà, une chambre plus fraîche, c'est ça qu'il faut pour faire fleurir les orchidées. Et il y a Chantal de Malray qui nous a également demandé « J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai des orchidées, elles ont de la peine à refleurir. Pour vous, c'est aussi la même solution, c'est de les mettre dans une chambre plus fraîche ?»
Alors, l'orchidée, c'est quand même une plante qui a besoin d'à un moment donné un repos, parce qu'on aime bien ces belles fleurs, on aimerait les avoir tout le temps, toute l'année, toujours sur la même plante. Alors, à un moment donné, la plante va s'épuiser, elle vous donnera plus de fleurs, et alors c'est pour ça qu'il faut de temps en temps les mettre dans un endroit un peu plus calme, un peu les oublier, un petit peu les laisser avoir un tout petit peu plus soif déjà, et puis après leur remettre une période meilleure, donc les ramener au chaud et puis les relancer, les arroser normalement, leur mettre un peu d'engrais, et puis après c'est là qu'elles vont refaire une nouvelle poussée de boutons pour avoir des jolies fleurs.
Donc voilà, Chantal et Aurore, vous savez ce qu'il faut faire pour faire refleurir vos orchidées. On a également Christophe de Glovelier qui nous demande « J'ai un jeune cerisier qui a poussé sur la racine mère. Faudra-t-il le greffer ou non afin qu'il donne les mêmes cerises que l'arbre principal ?»
Alors oui, là c'est un autre sujet, mais bien sûr que ce rejet ne donnera pas du tout le même fruit que l'arbre. Avant de le greffer, il serait bien qu'il l'arrache, qu'il le tire, qu'il aille le replanter dans un jardin où c'est qu'il y a une bonne terre, parce que souvent c'est très difficile à déjà les retirer pour les replanter. Donc avant de le greffer, il faudrait déjà qu'il refasse un nouveau système racinaire à cette jeune plante, à cette jeune pousse. Donc il l'arrache, il le met dans un bon coin de terre, un bon jardin. Il va le tailler, va un peu le réduire en branches aussi. Et puis qu'après, avec une année qui redémarre, qui repousse, qui refasse des nouvelles pousses. Et c'est justement sur ces nouvelles pousses de l'année qui pourra refaire des nouvelles greffes l'année suivante. Parce que si le greffe, et puis que la greffe va reprendre, ok. Mais après, il devra le retransplanter. Puis des fois, c'est là que c'est beaucoup plus difficile à faire redémarrer ce jeune cerisier. Parce qu'il le laisse sur cette plante mère, ben, il donnera le fruit de la plante mère, qui est souvent des cerises qui sont pas agréables, donc des petits fruits sauvages, des petites cerises, donc qui n'ont pas beaucoup d'intérêt.
Et Olivier, comment est-ce qu'on reconnaît une bonne terre pour un cerisier ?
Alors, une bonne terre pour un cerisier, ça dépend un peu les régions où on est, mais les cerisiers n'aiment pas trop les terres très marneuses, très lourdes. Mais dans le cas pour ce que je disais, une bonne terre, c'est pour le faire, c'est un jeune cerisier, c'est pour le faire redémarrer. Donc, un bon jardin, dans un coin de jardin pendant une année ou deux, pour qu'après, il puisse le mettre, puis aller l'implanter dans un verger définitif.
Et dernière question avant d'enchaîner avec notre sujet du jour qui est, je le rappelle, les feuilles mortes. Il y a Georgette d'Yverdon-les-Bains qui nous demande, puis-je laisser un figuier sur mon balcon pendant l'hiver ? Si oui, comment bien le protéger et y a-t-il une taille à faire à un moment donné ?
Alors, cette dame qui vient d'Yverdon-les-Bains a déjà plus de chance que certaines régions du Jura où c'est qu'il fait tout de suite un peu plus froid parce qu'elle est quand même au bord du lac. Donc, elle pourra le laisser sur son balcon. Pour la protection, souvent on oublie que la plante va résister au froid par rapport à ses racines. Donc souvent ces plantes sont dans des pots. Donc il faudra déjà protéger comme il faut le pot, soit avec de la jute de coco, soit par des isolations. On trouve dans le commerce maintenant beaucoup de choses pour protéger ces plantes. Mais bien bien protéger le pourtour du pot pour que les racines ne viennent pas geler. Parce que pendant l'été, les plantes elles vont... coloniser le centre, le bord du pot pour venir trouver l'humidité qu'on y met. Donc les racines sont vraiment tout au bord du pot. Donc c'est pour ça qu'il faut bien protéger tout le tour. Puis après, ben, elle peut le filmer avec un voile ou comme ça pour protéger les branches. Mais c'est déjà bien protéger la motte de terre pour que cette motte ne vienne pas comme un bloc quand il fera très froid.
Merci beaucoup Olivier. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent nous envoyer des questions en tout temps jusqu'à 8h, soit par SMS en tapant RJB, RTN ou RFJ au 939, ou alors vous passez un petit appel au 0901 70 20 20.
Nous parlons des feuilles mortes ce matin et avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous propose Olivier un petit vrai-faux à propos de notre thème du jour. Olivier. Donc, simplement répondre vrai-faux, c'est très simple. Nous pouvons simplement faire un gros tas avec toutes les feuilles mortes et les brûler.
Ah, faux.
Un tas de feuilles mortes laissées au milieu du jardin permettra aux hérissons d'hiberner.
Ah, ça c'est pas mal, c'est vrai.
Merci Olivier, nous ne doutons pas que nous allons en apprendre encore plus sur les feuilles mortes dans l'heure qui arrive.
Et Olivier, est-ce que lorsqu'on parle des feuilles mortes, on a raison de dire que c'est un cadeau du ciel ?
Ah, on peut faire beaucoup de choses avec les feuilles mortes, bien sûr.
Alors justement, avant de se pencher sur les bienfaits qu'elles procurent à notre jardin et notre potager, je vous propose de se pencher pour les ramasser, ces feuilles. Et justement, pour les ramasser, est-ce qu'il faut simplement, Olivier, de l'huile de coude ou... et puis une bonne paire de gants, ou est-ce que c'est bien de se procurer des outils de base ?
Alors l'outil de base va aider à mettre en place l'huile de coude, mais c'est clair qu'il faut beaucoup d'énergie et puis c'est assez simple à ramasser des feuilles.
Et puis l'outil de base, je suppose que c'est le
râteau à feuilles.
Ben ouais.
Et le grand sac pour les mettre dedans.
Peu importe le sac.
Exactement.
On prend ce qu'on veut.
Tout à fait.
Merci. Alors adaptez.
Plus il est grand, plus ce sera facile.
Adaptez, vous l'aurez compris, à toutes les bourses. Et ben, on trouve facilement ces outils. Hein. On les trouve même chez le voisin. Ça, c'est pour Mylène. Elle adore laisser servir chez le voisin. Et laisser faire. Qu'est-ce qui se passe, par contre, si on veut laisser cette corvée de côté, sous prétexte qu'on a autre chose à faire et puis on décide de laisser faire justement la nature, qu'est-ce qui va advenir de notre pelouse ?
Alors, ce sera toujours à voir la quantité de feuilles qu'il y a. Parce que si on n'a qu'une petite épaisseur de feuilles, pendant l'hiver, les feuilles vont se déplacer, vont se ramasser dans les bords. Donc la pelouse ne va pas souffrir énormément. En plus, si c'est des anciennes pelouses, on a quelques feuilles, ce n'est pas grave. Par contre, si on a une épaisseur de feuilles considérable, bien sûr, elles vont commencer à se décomposer par le bas, par l'humidité en dessous. Donc votre gazon va aussi pourrir ou moisir. Et donc automatiquement, au printemps, on se retrouvera avec des plaques à des endroits où c'est que le gazon aura péri, dépéri pendant l'hiver. Donc ce n'est pas intéressant. Donc si on a une bonne couche de feuilles, ça protégera, c'est ce qu'on verra après pour certaines plantes, mais pour le gazon, il faudrait les ramasser On n'est pas obligé de le faire tous les jours, tout le temps, mais au moins en fin d'automne, maintenant, il faut faire un ou deux ramassages pour que ce gazon soit libre pour l'hiver.
Alors, on va parler ce matin justement de ramasser les feuilles, de ce qu'on peut faire avec concernant le jardin, concernant la pelouse. Mais il ne faut pas oublier qu'il est important, vous qui nous écoutez, de ramasser vos feuilles également sur vos pavés et vos dallages. Ça vous évitera des glissades en sortant de chez vous. Alors, nos feuilles, elles sont ramassées. Est-ce que ça sert à quoi, Olivier, de les étaler sur notre terre fraîchement bêchée?
Alors ça, c'est une bonne question. Si vous faites un paillis de feuilles sur des plates-bandes, c'est une chose, mais si vous avez un jardin et puis que vous voulez incorporer ces feuilles dans votre terre, ça va améliorer votre structure de terre, mais ça ne sera pas fait dans un laps de temps court. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les étendre sur le jardin, il faudrait bêcher votre jardin, donc ça, faire un labour et puis les incorporer dans la terre, les mettre sous les mottes de terre pour que ces feuilles vont pourrir pendant la saison d'hiver, pendant le printemps l'année prochaine. Et puis quand vous planterez, ben, ces feuilles seront toujours dedans, elles vont dégager une matière organique. Et puis l'année suivante, quand vous refaites ce procédé, ben, ces feuilles seront décomposées, reviendront en surface, on les trouvera plus sous feuilles.
Mais
on les
Donc simplement dans le jardin.
Mais dans le jardin, mais les reboucher de la terre de votre jardin. Ça veut dire que vous allez les incorporer au jardin en labourant.
Et est-ce que ces feuilles mortes qu'on met dans le potager, il faut les broyer avec une broyeuse ou c'est pas nécessaire?
Alors ce serait mieux pour ceux qui ont une broyeuse, c'est clair, parce qu'une feuille morte qui est broyée va se décomposer beaucoup, beaucoup plus rapidement. Alors si elle est en petits morceaux, ces feuilles vont pourrir beaucoup plus vite. Et puis l'année suivante, vous ne les retrouverez plus du tout, elles seront en compost, en terre.
Un bon engrais naturel.
Exactement.
Et cette couverture protectrice hein, pour notre jardin ou pour nos plates-bandes ou autres, elle doit être de combien de centimètres pour être efficace?
Alors là, quand on parle d'une couverture, donc un paillis, c'est de mettre des feuilles dans une plate-bande où on a des vivaces, où on a des bulbes, où on a toutes sortes de plantes qui vont passer l'hiver. Alors là, on va mettre les feuilles sur la couche de terrain, donc à même le sol, pour couvrir toutes ces plantes. Alors là, on va en mettre 10, 15, jusqu'à 20 cm sans problème. Seulement après, au printemps, il faut veiller à enlever, quand les beaux jours reviennent, au mois de mars, avril, quand les bulbes et toutes ces fleurs veulent ressortir. Si on en a mis épais, il faut veiller à les enlever le surplus pour que ces fleurs puissent s'épanouir. C'est ces feuilles qui vont protéger ces plantes pour l'hiver, contre le froid.
Et cette couche est efficace et protectrice contre le froid, mais est-ce qu'elle filtrera aussi la lumière, Olivier? Et pourquoi est-ce que c'est important de filtrer la lumière?
Alors, si vous en mettez épais, bien sûr, la lumière ne va pas passer jusque tout autre de ces feuilles. Donc, c'est pour ça qu'au printemps, il faudra veiller assez rapidement à en enlever un petit peu pour que vos vivaces, vos plantes de printemps puissent ressortir. Mais ce sera surtout important pour protéger du froid. Quand on aura des hivers très froids et que le sol gèle très profond, ces feuilles vont quand même aider vos plantes à mieux redémarrer au printemps.
On l'a dit, hein, cette couverture ne s'adresse pas qu'aux légumes, elle convient également aux parterres de fleurs. Est-ce qu'elle concerne toutes les fleurs? Est-ce qu'il faut faire se mettre ses pieds au chaud à toutes les fleurs qu'on peut avoir autour de la maison?
Alors bien sûr, on pense à toutes les fleurs vivaces, hein, parce que tout ce qui sera planté pour tout le temps. Toutes, oui. On pense souvent à des, comme par exemple les hortensias ou les rhododendrons, ils perdent leurs feuilles. Beaucoup vont tout de suite les ramasser parce que comme ça fait propre. Mais dans leur milieu naturel, dans des bois où il n'y a que des hortensias, que des rhododendrons dans leur pays, ces feuilles sont là pour protéger les racines pour l'hiver, pour que, en plus de leur côté organique qu'elles amèneront de la nouvelle terre, elles vont protéger les racines. Donc on n'en met pas forcément partout, mais quand on a des feuilles, puis on peut les utiliser pour ces plates-bandes, c'est un plus pour les plantes qui sont en dessous.
Alors oui, c'est ce que vous dites, en plus de les protéger, donc ça va apporter à nos fleurs, ça va les rendre plus belles hein, quand elles repousseront. Donc c'est bien de le faire, donc de mettre ce paillis, comme vous l'avez dit, dans son jardin, dans ses plates-bandes, près de ses fleurs, au pied des arbres éventuellement. Donc voilà. Olivier...
J'ai juste une question. Si on n'a pas d'arbres dans son jardin, mais qu'on a envie de protéger nos plates-bandes, est-ce qu'on peut aller chercher des feuilles ailleurs?
Chez le voisin.
Chez le voisin. Toujours le voisin. Non, ou dans la forêt ou ailleurs. Est-ce que ça pose un problème si ces feuilles viennent d'ailleurs?
Non, ce n'est pas un problème. Si vous avez quelques plantes à protéger et puis que vous cherchez des feuilles, bien sûr, vous les allez trouver pas très loin, hein, le voisin, le bord de route, vous allez trouver des feuilles. Donc après, ce sera pour protéger quelques plantes par-ci, par-là. Et souvent, quand on met des feuilles pour protéger une plante, on va les mettre autour, au pied, au collet. Et puis quand on fait ça, puis qu'on veut que ces feuilles restent, de temps en temps, on met aussi quelques branches de sapin retournées dessus pour que ces feuilles ne s'envolent pas pendant l'hiver. Et puis après, on enlève tout ça au printemps. En attendant, mais les feuilles, pendant l'hiver, certaines auront pourri et pourront amener une matière organique dans le sol.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et paysagiste à Queuve. Nous parlons avec vous des feuilles mortes ce matin. Nous venons d'apprendre à faire cette belle couverture pour enrichir nos parterres. Dans quelques minutes, nous parlerons terreau et engrais. Bref, on parlera de tout ce qu'on peut faire avec ces feuilles mortes. Mais d'abord, place à nos questions d'auditeurs et d'auditrices. Je crois, Eline, que de votre côté, il y en a.
Et oui, il y a Rolande qui nous a appelé tout à l'heure parce qu'elle a entendu qu'on parlait d'orchidées au début d'émission. Donc elle s'est dit, ah, je vais vite leur poser une question parce que j'ai un petit problème avec une orchidée. Elle nous a dit qu'il y a des nouvelles pousses sur la tige. Ça fait plus d'un an qu'elle a ces orchidées. C'est la première fois qu'il y a ces nouvelles pousses. Et puis elle se demande s'il faut aussi les mettre au frais pour qu'elles puissent refleurir.
Alors si elle a déjà eu les nouvelles pousses, c'est que ces pousses vont gentiment montrer des boutons et fleurir. Donc maintenant, non, il faut les garder au chaud pour que cette pousse éclose, donc elle fasse les boutons, les fleurs. Mais quand cette partie de plante sera fleurie puis passée, alors là, il faudrait lui faire une période de repos.
Une période de repos, donc j'espère que Roland était très attentive à vos conseils. On a aussi une question de Marion qui nous demande par SMS comment enlever les maladies des cerisiers qui donnent des espèces de taches noires sur les feuilles et qui ne permettent donc plus aux fruits de développer. Vous avez une petite idée, Olivier ?
Alors, bien sûr, toutes les maladies des fruitiers, c'est un grand problème. Il y a tout ce qui sera de la partie des traitements, mais après, si on commence de traiter... On ne peut pas juste traiter une fois ou deux fois dans le cours de la saison et puis de se dire, ben voilà, c'est fait, ça sera plus malade et j'aurai de nouveau des fruits. C'est un travail en continu, les traitements des fruitiers. Ou alors après, des fois, on voit beaucoup les fruitiers qui sont malades, sont souvent les anciens fruitiers, les plus vieux, les plus grands. Donc, commencer des fois déjà par une taille, de le rajeunir, de refaire du nouveau bois, du nouveau branchage, et c'est ça qui sera plus résistant avant de directement commencer par le traitement. Si on taille un arbre fruitier régulièrement, qu'il a des nouvelles branches, du jeune bois, il aura des plus beaux fruits déjà, parce que les fruits viendront sur les bois de 2 et 3 ans, donc on va faire un tournus avec les branches, chaque fois qu'on taille, on va garder des branches à fruits. Et puis ces branches, eh bien, elles seront plus résistantes si elles sont nouvelles, de 2-3 ans, que si c'est des vieilles branches. Donc automatiquement, c'est compliqué. On ne peut pas expliquer à un fruitier de le traiter pour qu'il donne des fruits d'office. Mais s'il est vraiment malade, ben, il faut passer par la case traitement. Mais avant ça, il faudrait quand même qu'il soit entretenu régulièrement au niveau de la taille.
Merci beaucoup Olivier, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions jusqu'à 8h, soit par téléphone, vous passez un petit appel au 0901 70 20 20, ou alors par SMS, vous tapez RJB RTN ou RFJ, suivi de votre question, le tout au 939.
On se retrouve tout à l'heure.
7h, 8h. Les jardinières.
Comment saurait-on que nous sommes en automne si les arbres n'étaient pas là pour nous le rappeler ? Nous le rappeler, oui, grâce à la couleur de leurs feuilles. Des feuilles qui tombent et qu'on recycle ce matin dans les jardinières en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et paysagiste à Queuve.
Je rappelle que vous pouvez nous poser les questions à propos des feuilles, comment les recycler, et comment faire quelque chose. Vous envoyez un petit SMS en tapant RJB, RTN ou RFJ ou 939, ou alors vous nous passez un petit appel au 0901 70 20 20. Et avant de poursuivre et d'en savoir encore plus sur les feuilles mortes, Olivier, c'est à vous de répondre une nouvelle fois à notre vrai faux. Olivier, oui. Les feuilles mortes font de très bons allume-feu pour la cheminée.
Vrai.
Toutes les feuilles mortes sont bonnes pour notre jardin.
Faux.
Nos belles feuilles sont ramassées, nous voulons en faire un terreau maison. Certains sont déjà munis de tout ce qu'il faut, Olivier, pour ce travail. Mylène l'a dit avant, broyeur, mais également composteur, grillage, planche en bois, etc. Si on ne veut pas investir dans un broyeur, la tondeuse à gazon, est-ce qu'elle convient parfaitement bien? Le gazon, d'ailleurs, peut-être accélérer le processus de décomposition de nos feuilles. Donc on a broyé nos feuilles, c'est bien. Mais on doit faire quoi après? On met ça dans un coin et puis chut, loin?
Alors ça c'est la manière la plus simple, mais bien sûr que tu parles de tondeuse. Si vous passez la tondeuse sur vos feuilles mortes, sur votre gazon, et après vous ramassez le tout, donc soit avec le sac de la tondeuse, soit ramasser comme il faut avec un balai à feuilles, avec notre fameux grand sac, et mettre tout ça en tas dans un coin du jardin, le gazon va accélérer la décomposition des feuilles. Parce qu'une feuille, c'est sec et ça met du temps à se décomposer. Si on veut faire un bon compost de feuilles, si on met que des feuilles, il va falloir minimum 3 ans de le mettre en tas pour que vous ayez à la fin du terreau. Et puis, bien sûr, il y a un entretien qu'il faudrait brasser ce tas de feuilles tous les 6 mois, même un petit peu plus souvent, pour que les feuilles du milieu se retrouve dans les bords et vice-versa pour que la décomposition s'accélère. Parce que si on laisse un tas de feuilles compactes comme ça, c'est comme si on met un grand livre dans un feu, le milieu ne brûlera jamais. Donc pour qu'il finisse de brûler votre livre, vous devez le mélanger au feu. Donc les feuilles, c'est la même chose. Vous devez un compost, si on veut qu'il s'accélère, si on veut qu'il se décompose comme il faut le brasser souvent. Et la feuille, en plus, ça met du temps.
Est-ce qu'il y a des feuilles, Olivier, qu'il ne faut pas ramasser, qu'il ne faut pas broyer, qu'il ne faut pas composter? Je pense précisément au noyer.
Oui, alors en effet, les feuilles du noyer sont comme une feuille qui a la particularité d'être acide. Si vous avez un grand noyer, évitez peut-être de faire du compost qu'avec ça. Mettez-les plutôt dans une centrale de compostage où elles se seront mélangées avec beaucoup d'autres feuilles.
Et puis, est-ce que quand on fait notre compost, on peut le mélanger au compost alimentaire avec nos épluchures, nos coquilles d'œufs?
Alors, deux choses. La première, si vous le faites, c'est possible, mais ça mettra aussi beaucoup de temps à se décomposer. Et puis, au final, votre compost ne sera plus un compost, ce qu'on appellera un compost de terre de feuilles. Donc, si vous avez possibilité d'avoir beaucoup de feuilles et puis de faire un compost que de feuilles, votre terreau sera meilleur à la fin pour faire certaines choses que si vous mélangez tous vos aliments avec.
Alors, vous l'avez parlé, hein, faut pas oublier de le brasser. Mais à quel... on fait quoi? Le matin, on se lève, hop, une brasse, on part au boulot.
Non, quand même pas. Il faut un tas de feuilles, vous allez le brasser, ou un compost, on va le brasser une à deux fois par année, ce que serait bien, si c'est un petit peu plus souvent. Donc, on va le faire pas forcément régulièrement, c'est pas un planning à suivre, mais si vous le faites en 2 et 3 fois par année, votre compost sera beaucoup plus vite en terre que si vous le faites jamais.
Olivier, brasser un compost, moi, ça me parle. Moi, je m'imagine aller avec ma petite pellette en bois et touiller mon compost. Pas du tout
alors,
ça. Hein.
Alors non,
comment on fait?
Brasser un compost ou mélanger un compost, c'est les gens qui ont l'habitude d'avoir des composts, vous avez deux ou trois tas ou trois endroits. Mm-hmm. Donc, vous allez prendre le compost d'une année, vous allez le passer sur un autre tas, mm-hmm. et comme ça, après, vous avez un tournus et vous avez un compost qui sera déplacé, c'est ça qui va le mélanger.
Donc avec une fourche?
Avec une fourche.
Une fourche.
Et on déplace notre tas, carrément. On le prend, on le met à côté, et tout ça va faire qu'il se mélange, et ça va mettre le pourri du milieu du tas avec le sec du bord pour que ça accélère la fermentation et puis que ça accélère le compost qui vient d'entir.
Okay.
Donc on a nos tas de feuilles, on est bien d'accord, vous venez de parler du brassage, il manque un ingrédient principal, parce que j'imagine l'auditeur qui nous écoute, s'il prépare ses tas de feuilles pour faire son terreau,
oui.
Dans le mot terreau, il y a le mot terre.
Ouais.
On la prend où, cette terre?
Alors, si vous brassez votre tas de feuilles, vous pouvez en même temps ramener du compost pluvieux dans ce nouveau compost, donc ça sera déjà de la terre, qui sera une matière organique bien grasse, pour accélérer ce nouveau compost, ce nouveau tas de feuilles.
Et puis, je peux également prendre de la terre de mon jardin.
Alors, on peut mettre un peu de terre du jardin, c'est possible, mais je trouve qu'on aurait meilleur de mettre plus d'anciens composts, ça fera encore, ça suffira.
Et combien de temps va durer la décomposition ?
Alors, les feuilles, ça met beaucoup de temps. Ce que je disais au début, il faut, pour qu'une feuille, un tas de feuilles soit vraiment en terreau, il faut au minimum 3 ans.
Mmh. Quand même.
Oui. Si elles sont broyées, si elles sont mélangées souvent, si on les mouille aussi un peu, parce que si on a un endroit où c'est qu'il ne pleut pas beaucoup dessus, si on fait ça sous un arbre, ce sera sec. Alors il faudrait. Parce que pour qu'il y ait une décomposition, il faut de l'humidité, pour que ça fasse une fermentation.
Donc il faut l'arroser.
Alors si c'est dans un endroit sec, n'hésitez pas à y mettre une fois un peu de l'eau pour que ça soit bien humide, parce que les feuilles, on les ramasse quand il fait sec, donc on les monte à sec, donc il faudrait que ce soit humide pour qu'elles se décomposent le plus rapidement possible.
Alors voilà, tout au long de l'année, on doit faire tout ça donc, afin de l'entretenir, notre compost. Et puis, si on n'a pas envie de faire ni d'engrais, ni de terreau, ni d'humus, ni de paillage, vous pouvez nous donner une autre solution, Olivier. On peut utiliser ces feuilles, on peut les donner, ces feuilles, pour la production de biogaz. Alors, on fait comment ? On va où avec nos feuilles si on ne veut pas les garder dans notre jardin ?
Alors bien sûr, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'endroits de compost communaux, donc de places où on recycle tous les déchets verts. Donc c'est là qu'on va emmener nos feuilles. Alors après, il faut se renseigner, chaque commune, chaque auditeur va se renseigner sur sa commune s'ils font du biogaz avec. Donc ça, ça dépend des endroits. Et sinon, ces feuilles, elles seront pas en biogaz, mais elles seront en compost. Donc, mais on les va les donner soit aux déchets verts, soit à la place de compostage. Et puis après ça, elles seront prises en charge et puis elles seront utilisées pour biogaz ou compost.
Donc ça, on peut dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, donc c'est bien de se renseigner à la commune s'ils ont des feuilles pour justement, si eux ne veulent pas les recycler, pour que la commune se charge... Oui, c'est pas la commune qui va se charger, mais qu'elle puisse donner le point où ils peuvent les emmener afin de les recycler, donc pour de nouvelles matières. C'est juste.
Voilà.
Extra. Olivier, grâce à vous, on a maintenant l'entier des possibilités, enfin une partie des possibilités pour recycler nos feuilles mortes, mais on a encore besoin de vous pour résoudre quelques questions d'auditeurs.
Oui, notamment Yvonne d'Indervenier qui nous demande « J'ai laissé traîner mes feuilles dans mon jardin, quelques champignons ont commencé à pousser en dessous. C'est lié ou c'est juste un hasard? Et est-ce que c'est dangereux pour mon jardin d'y avoir de ces champignons ?»
Alors, dangereux pas, parce qu'il ne faut pas manger les champignons selon lesquels ça sera. Certains peuvent, mais pas tous. Après, si elle ramasse les feuilles et les champignons et elle met tout ça en tas pour faire un compost ou elle les met dans un, comme on disait maintenant, dans une centrale de recyclage, un compost communal ou comme ça, donc les champignons peuvent aller avec et seront seront détruits par l'effet compostable. Donc, il y aura pas de souci et il y aura pas de problème au niveau du compost, il n'y a pas de problème.
Mais donc c'est lié, ça se peut que ces champignons aient poussé parce qu'il y avait plein de feuilles juste au-dessus?
Alors tout à fait, ça vient certainement des feuilles, ça vient d'une partie aussi de la matière organique, des feuilles qui commencent à se décomposer, il va peut-être y avoir des petits morceaux de bois qui sont aussi en train de pourrir, donc c'est ça qui donneront les champignons.
On a Marie-Christine de Beuvet qui nous pose une question, pas forcément à propos des feuilles du jardin, mais nous demande, elle aimerait savoir pourquoi son grand ficus perd toutes ses feuilles alors que le plus petit se porte bien. C'est lié à l'automne ou ça se peut que ça soit juste la qualité de la plante ou quelque chose de ce genre-là, Olivier ?
Alors là, oui, on revient dans les plantes d'appartement comme avant. Un ficus, elle dit qu'elle en a un grand et un petit. Donc le grand, c'est clair qu'il aura beaucoup, beaucoup plus de feuillage. Même que c'est une plante d'appartement qui garde ses feuilles tout le temps, toute l'année, on est d'accord. À l'automne, elle va naturellement rejeter une petite quantité de feuilles. Ça, c'est la nature, c'est comme ça. On ne peut pas avoir une plante verte et qui ne rejette pas de feuilles. Alors ça, c'est déjà... une des premières raisons. La deuxième raison, ça peut être aussi souvent, les ficus, ils n'aiment pas les grands chocs de température, ils n'aiment pas les grands écarts, ils n'aiment pas, par exemple, qu'on les laisse avoir très soif et puis qu'après on les remouille beaucoup. C'est une plante qui est sensible aux écarts. Donc peut-être que elle l'avait dans un endroit frais ou pas chauffé pendant, bon, bien sûr, pendant la saison d'été, puis après à l'automne, et puis tout d'un coup, ils ont mis le chauffage en marche et le chauffage sol, et puis là, il est revenu tout d'un coup très chaud. Donc le ficus va faire un rejet de feuilles parce qu'il a l'impression qu'il transpire beaucoup, donc une plante verte transpire, donc il va en rejeter une partie. Donc elle peut l'avoir oublié un peu d'arroser, ou peut-être même beaucoup, et puis la plante a rejeté ses feuilles. Donc c'est pas très grave, mais il faut soit contrôler l'arrosage, ou contrôler aussi la température, s'il a eu un coup de froid. Le ficus est très sensible à des courants d'air froid, à des grosses différences de température. Il y a des gens qui les mettent sur le balcon, puis ils les rentrent en automne. Au moment où ils les rentrent, il y a toutes les feuilles qui tombent.
Alors, ça peut être lié à ce choc de température-là, par exemple.
Voilà, soit un choc de température, soit un choc d'arrosage qui n'a pas été suivi après une remise en route du chauffage en début d'hiver, quoi.
Et il y a Charles de Courandin qui nous pose une question un peu plus d'ordre, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais il nous demande, puis-je demander à mon voisin de venir ramasser les feuilles de son arbre qui tombe dans mon jardin ? Vous savez s'il existe une loi, quelque chose comme ça, ou bien c'est lui qui doit s'occuper des feuilles qu'il y a dans son jardin ?
Ça, ce serait plutôt une question de rapport de bon voisinage, je pense qu'il faudrait qu'ils s'entendent entre eux pour savoir qui ramasse les feuilles de qui, mais... au niveau loi, par rapport aux feuilles, ou je dirais plutôt par rapport aux fruits, si les fruits d'un pommier tombent chez le voisin, appartiennent au voisin, donc les feuilles, on pourrait dire la même chose, mais ce n'est pas forcément une loi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'ils s'entendent entre eux pour savoir qui ramasse les feuilles.
Bah voilà, Charles, j'espère que vous étiez très attentif. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions par SMS, vous tapez RJB RTN ou RFJ au 939, ou alors vous nous passez un petit appel au 0901 70 20 20.
Aujourd'hui dans les jardinières, nous parlons des feuilles mortes. C'est la saison, l'automne, c'est aussi la saison des marrons et des châtaignes, et ça tombe bien, nous allons enfin connaître la différence entre les deux. Tadam.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Et le deuxième qui suit.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Pourquoi pas ? Vous avez déjà toutes et tous entendu le type crier dans sa cabane en bois « Chaud mes marrons, chaud !» Et puis à Noël, chez votre mémé, on vous sert chaque année une dinde au marron et pour le dessert, un marron glacé. Du coup, aujourd'hui, nous allons répondre à une grande question. Une question existentielle qui revient chaque année en automne. Pourquoi dit-on marron alors que ce sont des châtaignes que l'on mange? Tadam ! Et pour commencer, apprenons à différencier les marrons des châtaignes. C'est un bon début. Le premier est celui qu'on voit le plus souvent sur les trottoirs ou dans les cours d'école et qu'on ramasse avec plaisir. On peut jouer avec, faire des bonhommes, des petits machins sympas. Mais attention, attention, il ne faut surtout pas le manger. C'est le marron d'Inde, il est toxique. D'Inde, D'INDE, hein, si jamais. Par contre, la châtaigne, elle, est comestible et goûteuse. La châtaigne, c'est le fruit du châtaignier. Avant le 19e siècle, on trouvait beaucoup de châtaigniers en Suisse. On se servait du fruit pour en faire de la farine. Mais la propagation de la pomme de terre et l'arrivée du chemin de fer, qui a entraîné une baisse des prix pour le riz et d'autres céréales, a privé au 19e siècle la châtaigne de son importance économique. On lui a dit merci, au revoir. Et en Suisse centrale, on a remplacé des châtaigniers par des pâturage. La diminution progressive du nombre de châtaigniers a alors conduit à une augmentation spectaculaire du nombre de vaches. Au moins, on est sûr de ne pas les confondre, elle. Hein.
Non, ce n'est pas leur seule différence. Observons-les de plus près. Ronds, lisses, marrons, avec une grande tache claire à la base, décidément, ils se ressemblent. Mais la châtaigne nous donne un indice pour la reconnaître. Elle seule possède une houppette sur la tête, une houppette à 6 cheveux.
Et d'où lui vient cette coupe iroquoise ?
Eh bien, sachez que la châtaigne est le fruit du châtaignier. Et comme tout bon fruit qui se respecte, même les fruits secs qui ne s'ouvrent pas, elle possède des restes de la fleur qui lui a donné naissance après fécondation. La houppette de la châtaigne est un reste du stigmate de la fleur d'origine. C'est le sommet du pistil, l'organe femelle de la fleur. Et c'est un fruit intelligent, en plus, la châtaigne, puisqu'elle se protège de l'intérieur par une bogue recouverte de pics que je vous défie de ramasser à main nue.
Et pour le marron, c'est la même histoire ?
Eh bien, justement, non. Et heureusement pour notre santé, on reconnaît le marron d'Inde à l'absence de houppette. En effet, le marron n'est pas un fruit comme la châtaigne, c'est une graine. Et sa bogue est verte et bien plus molle que celle du marronnier.
D'accord, mais pourquoi on dit qu'on mange des marrons alors ?
Eh bien, la réponse à cette question est assez nuancée. Historiquement, on dit que le terme marron serait apparu dans la région lyonnaise, emprunté à l'italien marrone, qui veut dire châtaigne. D'autres y voient une connotation sociale. La châtaigne était d'abord le fruit du pauvre ou la nourriture du cochon, mais elle devenait marron lorsqu'elle finissait sur la table des nobles. Et puis scientifiquement, le terme marron est donné aux variétés cultivées de châtaigne qui, par sélection, ne contiennent qu'un seul fruit par bogue, parce que les sauvages en contiennent trois. Donc une variété de grosses châtaignes, tout simplement.
Et puis c'est vrai que chaud les marrons, ça sonne quand même nettement mieux que chaud les châtaignes.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Éline, avant de se dire au revoir et de faire un récapitulatif avec Olivier, est-ce qu'il reste des questions d'auditeurs ?
Oui, on peut prendre par exemple la question de Mireille de Cortaillot qui nous demande justement, peut-on utiliser les feuilles mortes pour faire un feu de cheminée ? Olivier.
Alors, pour faire un feu de cheminée, non, je ne pense pas en mettre quelques-unes pour allumer le feu. Oui, mais après, pour faire un feu de cheminée, non, c'est pas conseillé du tout.
Et vous l'avez dit, hein, il faut qu'elle soit bien sèche. Hein.
Bien sèche pour allumer un feu.
Pour faire un allume-feu.
Oui.
C'était la question dans le vrai faux de Mylène. C'est vrai que vous avez dit vrai, mais il faut préciser qu'elles doivent être bien sèches. Et il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est dans le vrai faux de Mylène. Olivier, vous pouvez lui dire, je pense, quand elle vous a demandé si on pouvait faire un tas et mettre le feu à ses feuilles. Vous avez fait mais une tête. Pourquoi cette tête, Olivier ?
Ah, mais je pense que de faire des feux de feuilles, c'est déjà interdit. Donc ça va incommoder plus son voisin et tout l'environnement du quartier. Donc non, c'est interdit de brûler des feuilles. Et surtout des feuilles mortes, parce que ça ne brûlera pas. Parce que même si on pense qu'elles sont mortes, qu'elles sont sèches, elles ne sont pas correctement sèches. Donc elles ne vont pas brûler bien.
Olivier, on a parlé des feuilles mortes ce matin, précisément de celles qui s'amassent sur les pelouses. Qu'est-ce qu'il est important de rappeler à ceux qui nous écoutent ce matin concernant le ramassage, concernant le compost et concernant l'engrais ?
Alors, ce qui est à rappeler, c'est qu'il faut être conscient que ramasser ses feuilles, c'est déjà la première chose, c'est esthétique. Donc, enlever les feuilles sur les places, les cours, ça fait déjà beaucoup plus propre. Dans les gazons, bien sûr, c'est pour la santé de notre gazon. Et puis après, on peut les utiliser, comme on l'a dit, pour faire des composts ou alors les évacuer dans une centrale de compostage pour ne plus être embêté par ses feuilles.
Et bien voilà, tout est dit donc concernant les feuilles. Non, vous dites encore rajouter une petite chose.
Il y a une petite chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on pense toujours que les feuilles tombent à l'automne, comme maintenant, ça c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques arbres qui gardent leurs feuilles, comme les grands hêtres par exemple, qui gardent leurs feuilles presque jusqu'au printemps. Et c'est le bourgeon du printemps qui va pousser la feuille, puis que la feuille sèche va tomber. Ces arbres, on les appelle, ce sont des plantes qui sont marcescentes. C'est un terme un peu technique, mais c'est les feuilles de l'arbre vont rester sur l'arbre sèche. C'est un arbre qui est marcescent. Donc c'est le bourgeon du printemps qui va pousser la feuille, qui va tomber. Donc il y a le hêtre, il y a quelques arbres, le charme, qui vont avoir encore des feuilles à ramasser au printemps. Et ces feuilles-là, comme le hêtre, sont des feuilles qui sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à décomposer. Donc c'est bien, surtout les feuilles du hêtre, de les broyer avant de les composter.
Et c'est bien de les recycler, ces feuilles, ça se fait de moins en moins. Contrairement à l'époque, Olivier, vous avez une anecdote donc concernant l'antan.
Oui, alors bien sûr, mes origines sont quand même d'être jardinier. Je suis jardinier horticulteur avant d'être paysagiste. Les feuilles, dans le temps, on les ramassait. Les communes emmenaient les feuilles, les cantonniers des communes emmenaient les feuilles mortes chez les jardiniers de la place, n'importe dans quelle région. Et on compostait ces feuilles, on faisait des tas de feuilles, des immenses tas de feuilles qu'on brassait, comme on l'expliquait avant. Et que 3-4 ans après, on avait un excellent terreau. Maintenant, bien sûr, la facilité, on achète des terreaux tout près. On avait des cultures de cyclamen, par exemple, qui étaient des cultures qui étaient beaucoup plus facile à cultiver dans des terreaux de feuilles.
Merci Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes pépiniériste paysagiste à Queuves. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin, de répondre aux questions de nos auditeurs. Merci de vous être levé aux aurores. Les filles, la semaine prochaine, nous parlerons de taille.
taille des arbres.
Ah oui, pas de barbe.
Non.
Donc si de votre côté vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur nos sites RJB, RTN, RFJ. Remplissez le formulaire à disposition. Nous poserons toutes vos questions samedi prochain à notre invité. Nous vous proposons de passer un excellent week-end. On vous donne rendez-vous samedi prochain dès 7h pour passer un agréable moment côté jardin. Belle journée.
Belle journée.
Merci.
Les jardinières. 7h, 8h, les jardinières.